Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. À la une de cette session d'actualité, l'Assemblée nationale a statué sur les réquisitoires du procureur général près la Cour des cassations contre l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Au cours d'une plénière tenue hier, le président de l'Assemblée nationale promet la mise en place d'une commission ad hoc devant examiner ces réquisitoires du procureur pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre les prévenus. Vital Kamerhe a à cette occasion annoncé l'apprêt de son institution à investir les nouveaux gouvernements. Prise en charge pénible pour les 67 personnes blessées dans un accident de circulation survenu mardi sur les tronçons de la RN2 entre Mitié, Kavumu et Bukavu dans le sud Kivu. Et pour cause, la rupture des stocks des intrants dans les hôpitaux qui les accueillent, précise le médecin-chef des zones de santé de Miti Mureza. En tout cas, il lance un SOS aux partenaires et aux personnes de bonne volonté d'appuyer les hôpitaux concernés en intrants nécessaires pour faciliter leur prise en charge. L'invité de ce matin, c'est Christian Moleka, analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC. Il fait ici sa lecture de l'équipe du gouvernement Judith Souminois. Madame, Messieurs, bonjour. Poursuite contre l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale a examiné hier mercredi les réquisitoires du procureur général près la Cour des cassations. Ces derniers sollicitent l'autorisation de la Chambre basse du Parlement en vue d'ouvrir un dossier judiciaire contre les concernés. Au cours d'une plénière prévue à 12 heures et qui a débuté à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a imprimé la rigueur et le sérieux qui, selon lui, devront désormais caractériser la conduite des travaux parlementaires. Outre la mise en place prochaine de la commission spéciale devant examiner les réquisitoires du procureur, l'Assemblée nationale se prépare pour investir les gouvernements, affirme son président Vital Kamerhe. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Je ne vais pas vous rappeler à vous, les représentants du peuple, qu'en ce moment, notre pays est en danger. Et si nous allons dans les formalismes de quorum pour des grands responsables, j'ai mis 12 heures pour qu'effectivement l'alibi des embouteillages ne puisse pas jouer ici.
Votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction.
Et puis, répartition des postes ministériels au sein du premier gouvernement de Judith Souminois pour le deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. L'UDPS et ses mosaïques s'étaillent la part du lion en raflant près de 65% des postes. Elle est suivie de l'UNC de Vital Kamerhe et du regroupement AB de Samalou Kondé, trois figures connues de la société civile et l'AFDCA de Modeste Bahati. Parmi les partenaires de l'UDPS à l'Union Sacrée, seul Jean-Pierre Bemba a été reconduit comme vice-premier ministre au gouvernement avec une permutation au transport. Jeff Ngoi revient ici sur cette répartition à travers quelques ministères.
Après recoupement fait, c'est un gouvernement de l'UDPS. Sur 6 vice-premiers ministres, par exemple, 5 sont de l'UDPS et ses mosaïques et alliés. En l'occurrence, Jacques Meshabani, Guy Kabombo, Daniel Moukoko de A4C, Jean-Pierre Liaou et Guylaine Nyembo. Sur 10 ministres d'État, 4 au moins sont de l'UDPS, dont Thérèse Kayikwamba, Raïssa Palou, Alexis Guissaro et Acacia Bandoubola. Un seul poste revient à l'opposition républicaine avec Constant Moutamba nommé à la justice. Le MLCF Bazaïba se maintient à son poste. Le regroupement politique AB rafle deux ministères d'État sur 24 ministres, une dizaine et de l'UDPS et sa mosaïque. On peut citer ceux des finances, ressources hydrauliques, mines, droits humains, santé publique, recherche scientifique, enseignement supérieur et universitaire. L'AFDCA se retrouve avec deux portefeuilles dont emploi et travail, formation professionnelle. L'UDPS qui bat sa conserve son unique poste. Lopalu également, AVC AB de Didier Boudimbou avec deux ministères, l'UNC aux hydrocarbures et AB50 de Julien Paluku pour le commerce extérieur. Une entrée remarquable de la société civile avec Madame Léonie Kandolo, défenseur des droits de l'homme de longue date. Un cas qui intrigue un peu, c'est l'inamovibilité de Jean-Lucien Boussa avec son regroupement CODE. 6 fois ministre depuis le gouvernement de Sami Badibanga et aujourd'hui il gère le portefeuille.
Et puis cette réaction, la publication du gouvernement souminois ressemble à un partage du gâteau après plus de 4 mois d'attente. C'est ce que déplore le député national Étienne Andrito de l'UNC qui s'insurge contre la taille gigantesque de l'équipe gouvernementale. Pour sa part, les caucus des députés du Maniema s'est dit surpris de constater qu'aucun fils du Maniema ne se retrouve dans cette équipe de 54 personnes pour 26 provinces. Michel Kifindangoy.
Saluant la publication de l'équipe gouvernementale, les députés du Maniema invitent le chef de l'État à veiller à la représentativité nationale conformément à la Constitution. Prosper Tunda.
La Constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc pas représenté ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population.
Ce gouvernement, qui ressemble à un partage de gâteaux, ne peut être au service de la population que s'il travaille pour la pacification du pays et la lutte contre la pauvreté de la population, estime l'élu de Faradje, Étienne Andrito.
Si réellement ce gouvernement serait pour la population, qu'il mette fin à la guerre de l'Est dans une année tout au plus au minimum de 6 mois, qu'il s'occupe du social de la population congolaise, mais aussi des infrastructures routières en travers les provinces ou nos territoires.
D'autres députés plaident pour la réduction de la taille du gouvernement de 54 à 26 ministres afin de réduire le train de vie des institutions.
Du côté de la majorité parlementaire, on estime que le gouvernement souminois émane de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est donc équilibré, tenant compte des paramètres géopolitiques et du genre. C'est ce qu'affirme Eliezer Tambwe, député national élu de Kinshasa. On l'écoute, il est joint par Paul Matendo.
Ce qui est vrai, c'est un gouvernement qui est allé au-delà de tout statut politique, dans la mesure où c'est un gouvernement qui n'a pas tenu ni le poids politique de parti, ni quoi que ce soit. Nous avons conclu que c'est un gouvernement qui émane, en tout cas directement, de la volonté du chef de l'État.
Certains analystes pensent que ce gouvernement ne reflète pas la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça dépend de l'angle où la personne se situe. Il y a ce que moi j'appelle comme les 3 facteurs de la constitution d'un gouvernement, la constitutionnalité du gouvernement, c'est-à-dire l'équilibrage par rapport à la composition du gouvernement selon les appartenances géographiques, ainsi que la parité. Mais moi, j'estime, à mon même avis, que le gouvernement, c'est un gouvernement équilibré. Comme on le dit souvent qu'on ne change pas l'équipe sujette, si le chef de l'État estimait que ces gens-là ont gagné lors du premier mandat, il les a reconduits. C'est lui qui juge, parce que c'est lui qui est beaucoup plus redevable vis-à-vis de la population.
Enfin, le gouverneur de la province du Maïndombe est connu. L'indépendant Koso Kevani-Lebon a remporté les élections au second tour avec 8 voix contre 0 voix obtenues par son challenger Aimé Pascal Mongo. Les élections du deuxième tour ont eu lieu à l'Assemblée provinciale de Maïndombe hier mercredi. Au total, 18 députés provinciaux ont participé à ces scrutins. Il faut noter qu'au premier tour, les 2 candidats avaient fait score égal, soit 9 voix chacun. Le collectif des enseignants du Sud Kivu demande à l'autorité budgétaire de réviser la loi des finances 2024 afin de revoir leur salaire à hauteur de 1 000 $ par mois. Dans un mémo déposé hier mercredi au cabinet du président de l'Assemblée nationale, ces enseignants estiment qu'il est inacceptable que les députés touchent plus de 20 000 $ alors qu'eux perçoivent moins de 500 $. Jacques Chirimwami, coordonnateur du collectif des syndicats des enseignants du Sud Kivu, dit encourager le président Vital Kamerhe a matérialisé sa vision de mettre l'Assemblée nationale réellement au service de la population. On écoute Joseph Mabanga, porte-parole et délégué de ce collectif au micro de Michel Kifindangoy.
C'est un cri d'alarme que les collectifs des enseignants du Sud Kivu ont saisi les institutions à travers l'Assemblée nationale. Ils ont demandé à travers les mémos que de la première plénière, qu'ils puissent revoir la répartition du budget en leur octroyant au moins 1000 dollars. C'est de l'argent. Et ils ont demandé que ces députés nationaux puissent lire l'article 58 qui demande à ce que les richesses des pays soient réparties d'une façon équitable. Si jamais ils ne le font pas, l'Assemblée nationale sera responsable de ce qui va arriver parce qu'ils vont se prendre en charge. Et c'est inacceptable que les uns gagnent 33 000 dollars. C'est pourquoi je demande à tous les enseignants de la ville de Kinshasa, de créer un collectif et de toutes les provinces pour suivre l'exemple des enseignants du Sud Kivu.
À Bukavu, les 67 personnes blessées dans un accident de circulation survenu mardi sur les tronçons de la RN2 entre Miti et Kavumu inondent les hôpitaux de la place. Selon les médecins chefs des zones de santé de Miti Mureza, la prise en charge de ces blessés pose problème à cause de la rupture des stocks des intrants. Le docteur Serge Mouniaou appelle à l'aide pour sauver la vie de ces personnes. Il a été joint par Jean Kassami.
À l'hôpital général de référence de Kavumu, nous avons reçu 39 malades. De ces 39 malades, il y a deux malades qui sont décédés sur place. Donc c'était les corps sans vie qui sont venus à l'hôpital de Kavumu. Les autres malades, nous les avons soignés et ils continuent à suivre les soins. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais nous avons mis toutes les batteries en marche, les ressources, pour ce qui est des prestataires de soins et les intrants de prise en charge. Donc les malades continuent à poursuivre les soins. Il y a 22 malades qui ont été reçus à l'hôpital général de référence de Miti. Malheureusement, nous avons déploré un décès de ces 22 malades et nous avons référé 8 malades à l'hôpital provincial de Bukavu et ils continuent à poursuivre les soins. Les intrants, ça pose des soucis. Déjà hier, nous avons travaillé avec les intrants disponibles. Nous remercions le partenaire MSF Espagne qui nous a ce matin renforcé en termes d'intrants, mais la quantité souhaitée pour continuer à suivre et à prendre en charge les malades reste insuffisante. Donc, les besoins restent énormes et nous demandons aux différents partenaires et aux différentes personnes de bonne volonté de continuer à appuyer les hôpitaux pour continuer à prendre correctement soin des malades.
Au Nord Kivu, la MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, a remis mardi une assistance en non-vivre à une cinquantaine de femmes détenues de la prison de Kangambi de Beni et à une quarantaine d'enfants en conflit avec la loi. L'assistance est destinée principalement aux femmes qui allaitent en vue d'améliorer leurs conditions de détention. Kavira Kiza, responsable de la prison de femmes de Beni, exprime sa reconnaissance après réception de ses dons. Elle est au micro de Sadiki Aboubakar.
Ils ont apporté des matelas, des vêtements, des chaussures, ainsi que des savons pour nos détenus. Cette assistance va nous aider pourvu que nos détenus vivent dans une bonne condition au sein de notre établissement. Il y avait besoin puisque ce n'était pas tous les mamans qui avaient des matelas, ce n'était pas tous les mamans qui avaient des vêtements, ce n'est pas tous les mamans qui avaient même des chaussures, mais quand même ça va maintenant avec l'appui de notre partenaire des corrections. Toutes les mamans ont maintenant des chaussures, des habits, ils ont même des savons pour laver ces habits. Nous disons d'abord merci, merci beaucoup à nos partenaires. De temps en temps, on aura toujours avoir besoin de la MONUSCO puisqu'ils nous aident dans différentes activités. Comme d'ici peu de temps, on va continuer avec les formations d'informatique. On aura toujours besoin de la MONUSCO puisque nous vivons ici, là où nous vivons ici au sein des quartiers femmes, ils sont accompagnés de leurs bébés. À tout moment, nous avons des besoins.
Autre nouvelle, la RDC invite ses pairs de l'Association Est-Africaine des autorités de lutte contre la corruption pour l'élaboration d'un traité régional sur les recouvrements des actifs des flux financiers illicites concernant l'exploitation frauduleuse de ces ressources minérales. C'est l'APLC, Agence de la Présidence de la République en charge de la prévention et lutte contre la corruption, qui vient de porter haut cette voix. Cette nouvelle est livrée par la cellule des communications de l'APLC. Retour en fin de semaine dernière de la délégation de la RDC à la conférence régionale de la plateforme anticorruption de l'Afrique de l'Est. Billy Ivan Lutumba nous en parle.
Le coordonnateur adjoint intérimaire en charge des enquêtes et investigations et du suivi des affaires en justice à la PLC, qui a conduit la délégation congolaise, Francis Lusakweno, recommande qu'un véritable partage d'informations soit établi au sein de la région pour contrer la fraude.
Notre pays connaît un conflit des guerres depuis plus de 20 ans. Et donc ce conflit permet notamment l'exploitation illicite des ressources minérales, minerais de sang. J'ai beaucoup apprécié le modérateur lorsqu'il précisait qu'il était important de détecter, identifier et circonscrire les cas et passer au besoin une coopération internationale afin d'arriver à un partage d'informations entre les parties prenantes.
Pour démontrer la pertinence d'une telle approche axée sur la coopération des services de lutte contre la corruption, la PLC cite l'action menée par la Tanzanie.
Je tiens à remercier la République sœur de Tanzanie avec laquelle nous avons eu cette collaboration car elle nous a permis de récupérer plusieurs tonnes de minerais qui étaient sortis illicitement de notre pays, la République démocratique du Congo. Si nous arriverons à recouvrer un certain nombre d'avoirs, nous pourrons notamment permettre que nos programmes et nos objectifs puissent être atteints.
Signalons que cette rencontre, qui a également connu la participation d'experts du ministère de la Justice, de la PLC, de la CNRF et de la RMP, a été organisée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Commission kényane pour l'éthique et la lutte contre la corruption.
Actualité internationale. Législative à Madagascar, les votes marqués par des tensions, l'opposition crie à la fraude. Le bureau de vote à Madagascar a fermé leurs portes avec plus de 11 millions d'électeurs appelés mercredi 29 mai à élire leurs 163 députés sur toute l'île. À Antananarivo, la capitale, les électeurs ont semblé se déplacer en nombre tout au long de la journée, à contrario de la dernière élection présidentielle. Mais la journée est déjà marquée par l'opposition qui a pointé des fraudes et des tensions qui ont également éclaté dans des bureaux de vote.
L'invité.
Notre invité, c'est Christian Moleka. Il est analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC. Il fait ici sa lecture de l'équipe du gouvernement Judith Suminwa. Christian Moleka s'entretient avec Paul Matendo.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement souminois est finalement connu après une longue attente. Quelle lecture faites-vous de cette équipe?
La première lecture, c'est que c'est une équipe de compromis. On voit qu'il y a, beaucoup de compromis entre la feuille de route de départ qui voulait un gouvernement resserré avec entre 40 et 45 personnes et un gouvernement sans chef de parti. Les négociations politiques ont ramené cette ligne de départ vers un gouvernement un peu plus large de 54 membres et une présence toujours assez importante de chefs de parti. Donc un gouvernement de compromis, un changement des rapports de force avec l'UDPS qui revient en force en prenant 3 de 5 fonctions régaliennes, notamment l'intérieur, la défense et les finances. Et puis également, une présence toujours assez importante des femmes, 16 femmes et des femmes qui ne sont pas pour l'essentiel des politiques, des technocrates. Et peut-être dernier point, on voit tous ceux qui ont battu campagne pour le président, notamment son bureau politique récompensé, avec Jacques-Maxime Sabani qui prend l'intérieur, Acacia qui prend les affaires foncières et peut-être le directeur des cabinets également qui revient au gouvernement.
Un gouvernement de compromis, vous dites, quels sont les défis qui l'attendent selon vous?
Le premier défi des sécuritaires, ça reste la guerre à l'Est, les combats aux portes de Goma. Comment finir la guerre? Comment relancer le processus de Nairobi et toute la partie diplomatique qui s'impose? Ensuite, les préoccupations économiques, à savoir le social des citoyens, reprendre main sur la flambée des prix, régler la problématique du pouvoir d'achat des Congolais et pour cette grande jeunesse qui a longuement voté, c'est répondre aux préoccupations en termes d'accès à l'emploi pour les jeunes. Telles sont les grandes lignes de mon point de vue et ce qui doit être la priorité du gouvernement.
Ce gouvernement, selon certains analystes, ne reflète pas la cohésion nationale. Qu'en pensez-vous?
Bon, déjà, remarque l'absence de la province du Maniema. Pour un gouvernement de 54 membres, c'est quand même déséquilibré d'avoir une province qui n'est pas représentée. Ensuite, on sent également la montée en puissance de l'espace province orientale qui a 8 ministres. Le Nord-Kivu qui reste également parmi les provinces qui donnent plus de ministres au gouvernement. L'équilibre, il tient également, je dirais, en termes de poids politique. Qu'on connaît les poids politiques que jouent les provinces, notamment de l'Est, dans l'échiquier politique aujourd'hui. Le centre-sud, qui est le bastion du président, gagne toujours en importance. Donc le déséquilibre, il est à la fois lié au fait que géopolitiquement, le centre du pouvoir reste le centre-sud et l'Est.
On voit dans ce gouvernement plusieurs personnalités du gouvernement sans main, ce qui fait dire à une certaine presse que Madame Judith Suminwa conduit le gouvernement sans main remanier.
c'est vraiment pas le séisme attendu par beaucoup. C'est pas une rupture, c'est une réforme dans la continuité. On a réaménagé certains qui ont été permutés. Fondamentalement, c'est pas un grand séisme. Et donc, c'est pour ça que cet équilibre-là, ce compromis l'a trouvé avec les chefs des partis qui sont restés, donnent pour certains le sentiment de la continuité parce que ce sont les mêmes profils, par exemple, qu'on a retrouvés dans le gouvernement Sama 1 ou Sama 2 qui sont toujours à la tête de certains ministères.
Certains ministres de l'équipe Sama au centre de clameurs publiques concernant des détournements n'ont pas été récupérés. Une note positive ?
C'est aussi une note, je crois que c'est la note favorable à constater, c'est que l'essentiel des ministres qui ont été portés prendre par l'opinion sont partis. On pense notamment à Tony Mwamba et au ministre Nicolas Kazadi. Le seul qui a peut-être échappé à cette purge, c'est le ministre Mazenga, qui était invalidé par la CENI après l'histoire des dans une machine à voter. Lui, il a échappé entre les gouttes, il est resté. Donc ça, c'est quand même un point positif à saluer que le travail de l'opinion a poussé les politiques à changer de cap.
Christian Moleka, Judith Souminois voulait une équipe réduite composée des technocrates. Va-t-elle faire face au ministre qui compose son gouvernement et répondre aux besoins sociaux de la population congolaise?
Bon, on les jugera à l'œuvre. On verra la capacité de la première ministre à coordonner ses hommes. Elle ne voulait pas des chefs des partis. Elle les a. Elle ne voulait pas un gouvernement assez large. Elle a un gouvernement large. On verra comment elle va manœuvrer, tout en sachant que les attentes sont très très nombreuses et elles sont très abondantes. Donc on verra dans les 3 ou 4 mois comment ce gouvernement réussira à changer la donne.
Christian Moleka, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Christian Moleka, analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC, répondait aux questions de Paul Matendo. Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Polydor Basunga, supervisé et coordonné par Pele Kipela Mondo et Richard Junior Kamunga. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci d'avoir été avec nous.